Vous écoutez RFI, les 2 heures à Paris, 1 heure en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, les chances de voir entériner un cessez-le-feu en Ukraine toujours suspendu à la volonté de Moscou. Les émissaires russes rencontrent ce lundi les négociateurs américains en Arabie Saoudite après une première rencontre entre émissaires américains et ukrainiens jugée positive par Kiev. Le face-à-face qui continue en Turquie entre l'opposition et les autorités. Les partisans du maire d'Istanbul incarcérés par le régime d'Erdogan pour corruption se sont massivement rassemblés pour le 5e jour consécutif ce dimanche, notamment à Istanbul. Et puis ce 23 mars, c'était la journée mondiale de la météo, l'occasion pour l'OMM, l'agence onusienne spécialisée, de promouvoir un système d'alerte précoce pour tous. Objectif, mieux prévenir les effets des catastrophes, notamment dues au réchauffement climatique. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu au moins provisoire en Ukraine? À la veille des discussions à Riyad en Arabie Saoudite, l'émissaire du président américain Trump, Steve Witkoff, s'est en tout cas montré optimiste. Il dit s'attendre à de vrais progrès lors de ses pourparlers avec la délégation russe prévue ce lundi. À Moscou, on tempère pourtant les attentes. Heike Schmidt.
Avant même d'entamer les négociations sur un cessez-le-feu, le Kremlin a déjà douché les espoirs en déclarant que les discussions n'en étaient qu'à leur début et qu'elles s'annonçait difficile. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, le sujet principal ce lundi sera la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, rompu par la Russie en 2023. Pas un mot, en revanche, sur un arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques pendant 30 jours que Vladimir Poutine avait pourtant accepté lors de son appel téléphonique avec le président américain mardi dernier. Moscou semble jouer la montre et multiplie les attaques pour arriver en position de force à Riyad. Kiev, de son côté, accuse Moscou de saper les efforts de paix. Le président Zelensky dit toutefois espérer que les négociations aboutiront à un résultat proche d'un cessez-le-feu complet. Sa délégation apportera une liste de sites civils et de zones qui devront être prises en compte dans le cadre d'une trêve.
Et les échanges en vue de cette trêve partielle en Ukraine ont débuté ce dimanche en Arabie Saoudite. Une réunion entre Ukrainiens et Américains s'est tenu à Riyad. Les discussions ont été productives selon le ministre ukrainien de la Défense.
RFI, la radio du monde.
La tempête à l'échelle mondiale provoquée par le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis oblige les grandes puissances à se repositionner. Menacée par une guerre commerciale lancée par le président américain, la Chine cherche aujourd'hui à se présenter comme un partenaire fiable sur la scène internationale. Lors de l'ouverture du forum annuel pour le développement ce dimanche à Pékin, le premier ministre chinois Li Qiang a assuré que son pays resterait une force de stabilité. Dans le public, plusieurs chefs d'entreprise américains, dont le PDG d'Apple, Tim Cook, en visite à Pékin avec le sénateur républicain Steve Daines. Ils l'ont écouté avec attention.
Le découplage et la perturbation des chaînes industrielles et d'approvisionnement ne feront qu'exacerber la crise, tandis que la répression et l'endiguement ne feront que nuire aux autres et à soi-même. Si le monde retourne à une jungle primitive où les forts s'attaquent aux faibles, ce sera un pas en arrière dans l'histoire et une tragédie pour l'humanité. En tant que grand pays responsable, la Chine se tiendra fermement du bon côté de l'histoire et du côté de l'équité et de la justice. Face au vent et aux vagues de l'époque, nous devons faire preuve de droiture et suivre la bonne voie. Nous devons nous engager de manière inébranlable en faveur de la mondialisation économique, pratiquer un véritable multilatéralisme et nous efforcer de contribuer à la certitude et à la stabilité de la paix et du développement dans le monde.
Le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, a lui annoncé ce dimanche l'organisation d'élections législatives anticipées. Elles auront lieu le 28 avril. Il a affirmé qu'il avait besoin d'un mandat fort pour faire face aux menaces de Donald Trump, qui cherche à briser le Canada, selon lui. Un scrutin inédit dans l'histoire du pays, au moment où le président américain a menacé à plusieurs reprises d'annexer son voisin du Nord.
RFI.
On vous en a parlé ce matin dans le dossier Afrique. La recherche en génomique se développe doucement sur le continent africain. Moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes africaines, ce qui représente un grand fossé dans les connaissances scientifiques. L'Afrique du Sud fait partie des principaux pays moteurs de la recherche génomique. À Johannesburg, l'université de Wits, parvient à se doter d'équipements de séquençage à la pointe. Pour comprendre ce séquençage, il permet de lire l'ADN et aussi de comprendre les mutations des gènes et prévenir certaines maladies, cela en fonction d'un groupe ou d'une population précise. Valentin Hugues a poussé la porte de l'Institut de biosciences Sydney Brenner à l'Université de Wits de Johannesburg.
Tout commence avec quelques gouttes de sang conservées à moins 80 degrés dans un grand congélateur.
Je travaille sur la génétique de la population noire sud-africaine pour voir ce qui peut expliquer une réaction différente au traitement contre l'hypertension par rapport aux populations européennes ou asiatiques.
Pour répondre à ce genre de questions, il faut séquencer les gènes pour les lire dans le détail et les comparer à un gène de référence. Mekouda Nyamouba, doctorant à l'université de Wits, doit d'abord extraire l'ADN.
Ici, nous avons une machine automatisée très sophistiquée. On écrase les cellules et des billes magnétiques attirent l'ADN. C'est une technologie très moderne. On peut traiter plus d'échantillons, on gagne beaucoup de temps.
Une fois l'ADN extrait, il faut préparer le séquençage, amplification de l'ADN, récolte des données, configuration des machines, un processus d'environ une semaine.
Voilà mon séquençage, chaque personne a un identifiant unique, là c'est une personne, ici une autre. Avec le séquençage, nous pouvons trouver la cause profonde du problème que nous examinons. En d'autres termes, une fois qu'on a la cause, on peut dire si une personne a cette mutation, elle sera plus susceptible d'être malade et donc faire de la prévention.
C'est aussi une pratique coûteuse. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire comme celui de Wits. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et plus d'informations à retrouver sur ce sujet sur notre site RFI.fr. Ce 23 mars, comme chaque année, c'était la journée mondiale de la météorologie. Une journée organisée par l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, une institution spécialisée des Nations Unies qui fête à cette occasion son 75e anniversaire. Dans un monde qui connaît de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes en raison du réchauffement de la planète, l'OMM joue un rôle essentiel dans la surveillance des conditions météorologiques, du climat et des ressources en eau. La précision de ces données permet aux États d'adopter des systèmes d'alerte précoce et d'atténuer ainsi les effets des catastrophes. Avec son initiative Alerte précoce pour tous, l'OMM souhaite développer ses systèmes de protection à la totalité des pays d'ici 2027. Igor Strauss.
D'abord, il y a les chiffres vertigineux. Entre 1970 et 2021, les mauvaises conditions météorologiques ont fait plus de 2 millions de morts et 4,3 milliards de dollars de pertes économiques. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes comme les cyclones, les inondations ou les sécheresses vont se multiplier partout sur la planète. Il est donc fondamental pour les États de se munir de systèmes d'alerte précoce. Pourtant, près de la moitié des pays n'ont toujours pas accès à ces systèmes vitaux. Une honte pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déplore que des vies et des moyens de subsistance soient perdus faute d'accès au système d'alerte précoce. Chaque minute, des données provenant de satellites, de ballons météorologiques ou encore de bouées océaniques parviennent au centre météo grâce à la coordination de l'OMM. Si les prévisions ont énormément progressé ces dernières années, des lacunes subsistent dans les réseaux d'observation. L'Organisation mondiale de la météorologie appelle donc les États à investir, innover et s'unir pour favoriser la coopération entre pays et ainsi sauver des vies et des biens.
Du sport à présent, dans une ambiance survoltée, Félix s'impose face à son frère Alexis en finale des championnats de France de tennis de table, 4-7 à 3. Après avoir remporté le titre en double, Alexis et Félix Lebrun se retrouvaient pour la troisième année consécutive en finale des championnats de France, en simple cette fois. Après deux défaites face à son frère, Félix Lebrun, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en simple, remporte enfin un titre de champion de France. Une immense joie pour ce cadet de la fratrie qui a quand même eu un mot pour Alexis. Ici, au micro de Solène Ravenel.
C'est un objectif depuis tout petit, un rêve d'aller chercher avec un scénario comme ça où j'ai vu la défaite arriver avec un public comme ça, un soutien. C'était dur parce que je pense que j'ai vraiment tout mis dans ce match. Je pouvais pas être plus haut en intensité. Et ouais, c'était mon objectif de départ, d'avoir zéro regret, de mettre énormément d'intensité. J'avais à cœur d'aller chercher cette finale, puisque la finale de l'année dernière a fait beaucoup de mal. J'ai félicité pour son année après jeu. Franchement, il enchaîne compète sur compète, c'est exceptionnel. Après, je vais le laisser un peu récupérer parce que c'est un match difficile pour lui. Il a quand même une balle de match pour être champion de France pour une quatrième fois d'affilée qu'il ne va pas chercher. Donc, il va prendre un peu de temps, mais on est ensemble ce soir, donc on pourra en discuter.
Et puis en football, la France s'est finalement qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations en éliminant la Croatie, qualification également de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal. Il est 2h sur RFI, 2h10 à Paris. Excellente nuit à l'écoute de nos programmes.